Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous rejoindre à cette heure-ci, chaque samedi. Merci de votre fidélité. Nous allons bien sûr parcourir le monde afin de revenir sur 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction. Cette semaine, il va beaucoup être question de l'Iran. Notre invité y a travaillé 10 ans, il me semble, comme journaliste. Bonjour Delphine Minuit.
Bonjour Pierre-Edouard.
C'est bien 10 ans, hein ?
10 années, tout à fait.
Alors vous venez de publier « Je vous écris de Téhéran », c'est le titre de votre dernier livre publié au Seuil. On s'était vu, vous aviez participé à cette émission il y a déjà de longues années pour une collection qui s'intitulait Les
Pintades. J'avais écrit un ouvrage sur la vie quotidienne des Iraniennes à Téhéran, Les Pintades à Téhéran.
Alors aujourd'hui, vous êtes correspondante du Figaro au Caire, d'une zone stratégique s'il en est. Et votre livre est formidable parce qu'il est à la fois politique, livre de journaliste et livre profondément humain, presque un roman.
Oui,
c'est
une
lettre posthume adressée à votre grand-père.
On est à la croisée des chemins. J'ai eu le privilège de vivre en Iran pendant 10 ans. Je n'y suis pas allée par hasard. C'était aussi, je sortais de mon école de journalisme. J'avais fait mes débuts d'ailleurs à Radio France ici. Et puis, c'était la période d'ouverture sur la scène internationale. L'Iran tendait la main. C'était l'élection de Mohammad Khatami. Et puis, coïncidence du destin, ça a aussi correspondu au décès de mon grand-père iranien. Ma mère est française, mon père est iranien. Je suis née et j'ai grandi en France. Et pour moi, ça a été une déchirure. J'ai réalisé qu'une partie de moi-même s'en allait, une part invisible que je ne connaissais pas. Et il y a eu ce déclic, j'ai eu envie d'aller sonder le passé, sonder les origines de mon grand-père, mes origines, de partir en Iran. Je suis partie avec une petite valise à l'époque pour quelques
L'aventure.
Jours et j'y suis restée pendant 10 ans.
C'est-à-dire que parler de l'histoire de votre grand-père, c'était parler de l'histoire de l'Iran aussi.
C'était tout à fait raconter cet Iran de ces dernières années, cet Iran des vagues, puisque il y a eu cet appel d'air en 97 avec l'élection de Khatami, l'Iran qui renoue un dialogue sur la scène internationale. Il faut rappeler que pendant des années, l'Iran s'était recroquevillé sur lui-même après la révolution islamique, après l'arrivée des ayatollahs au pouvoir en 1979. Après, il y a eu des vagues plus douloureuses de répression. Il y a eu l'élection de Mahmoud Ahmadinejad qui a succédé à Khatami. On se souvient encore de ses doctrines, enfin de ses diatribes belliqueuses sur la scène internationale.
Et sa réélection
il
douteuse.
Il disait qu'il fallait rayer Israël de la carte. Il a relancé le programme nucléaire. Il a été réélu en 2009 avec une réélection douteuse puisqu'on pense probablement qu'il y a eu une fraude électorale. Ça a débouché sur des manifestations, à nouveau un appel d'air, c'était en 2009, et puis cette répression très sanglante qui a poussé de nombreux Iraniens derrière les barreaux sur la route de l'exil. Certains également sont décédés et nous les journalistes, nous étions à cette époque de moins en moins nombreux sur place. Et on a dû partir parce que c'était trop dangereux pour
et
nous aussi.
Et le journaliste que vous êtes a eu beaucoup de choses à raconter, évidemment, avec tous ces événements importants dans l'histoire de ce pays.
De retour d'Iran, j'ai eu envie, en effet, de poser à l'écrit toutes ces années, de raconter cet Iran des paradoxes, des contradictions. L'Iran, c'est un pays très compliqué. C'est pas une démocratie, c'est pas non plus une dictature.
On va y revenir, évidemment, Delphine. Alors, vous dites que vous avez attrapé l'iranité. C'est une drôle de maladie, ça.
Une drôle de maladie qui m'a vraiment collé à la peau parce que, finalement, je suis partie en Iran en tant que journaliste, journaliste en herbe. J'ai fait mes débuts en Iran, journaliste qui me sentait avant tout française. Et au fil des années, en renouant avec mes origines, je me suis iranisée. J'ai appris la langue. Et plus on vit longtemps dans un pays, plus on intériorise aussi les sentiments, les douleurs, les espoirs de la population qu'on côtoie au quotidien. Et puis les Iraniens sont des as en ce qui concerne le slalom entre les interdits. Et finalement, j'ai appris à faire comme eux. J'ai souvent été confrontée à des restrictions. Et puis j'ai appris à me glisser aussi entre les interstices.
Alors Delphine Minuit, la Tunisie, bien sûr, et Israël vont être des escales importantes dans notre voyage, bien évidemment. Mais d'abord, partons pour le Pacifique, pour le Vanuatu, ce pays aux 83 îles dévastées par un cyclone. Son président a appelé à l'aide la communauté internationale lundi après le passage dévastateur de ce cyclone PAM qui a fait au moins 24 morts. Le réchauffement climatique est en cause. Correspondance régionale de Frédéric Charles.
Les petits états insulaires du Pacifique Sud, comme le Vanuatu, sont plus vulnérables que d'autres au dérèglement climatique, déclare à Sendai le président du Vanuatu, Baldwin Lonsdale. Et d'ajouter, le réchauffement climatique a contribué à la violence du cyclone PAM qui a dévasté son archipel. En 2005, déjà, les Nations Unies considéraient les habitants du Vanuatu comme les tout premiers réfugiés climatiques de la planète. Rachel Kite, une vice-présidente de la Banque mondiale, note à Sendai que ces quatre dernières années, l'archipel de Vanuatu a été frappé par des cyclones de catégorie 5, la plus élevée, et que le changement climatique a un lien avec une telle fréquence inédite. Selon Rachel Kite, il est indéniable que cette partie de l'océan Pacifique s'est réchauffée et la violence des vents des cyclones s'est intensifiée avec des rafales dépassant 300 km/h. Dans l'archipel de Vanuatu, la hausse du niveau de la mer se superpose à un autre phénomène, l'affaissement d'un centimètre par an de ces îles, et cet affaissement s'explique par des séismes fréquents.
Suite d'une semaine d'actualité, Delphine Minoui, près d'un million de personnes ont manifesté dimanche dans plusieurs villes du Brésil pour protester contre la dégradation de la situation économique du pays, l'inflation et la corruption, et pour demander surtout une destitution de la présidente Dilma Rousseff, correspondance de François Cardona.
Dans plus de 80 villes, les manifestants, habillés de jaune et de vert, les couleurs nationales, ont défilé pour exiger unanimement la destitution de Dilma Rousseff. Ils étaient plus d'un million à São Paulo, la capitale économique. La présidente brésilienne est éclaboussée par le scandale Petrobras, la plus grave affaire de corruption de l'histoire du Brésil, avec 3 milliards d'euros détournés des comptes du géant pétrolier brésilien. Des dizaines de députés, de sénateurs appartenant majoritairement à la coalition au pouvoir sont soupçonnés par la justice d'avoir perçu des pots de vin. Alors comment Dilma Rousseff n'aurait-elle pas su? C'est ce qu'ont clamé toute la journée les manifestants dans le pays réclamant le départ de la présidente. En réponse à ces manifestations, le ministre de la Justice a déclaré hier soir que la présidente annoncerait dans les jours qui viennent des mesures contre la corruption, contre l'impunité. Mais alors que le ministre s'exprimait à la télévision, dans de très nombreuses villes, un panelasso a retenti à un concert de casseroles. C'est ainsi que les Brésiliens de la classe moyenne expriment leur mécontentement en tapant sur leurs casseroles à leurs fenêtres. Le Brésil est au bord de la récession avec une forte augmentation des prix. Sous la pression de la rue, la présidente affronte donc à la fois accusations de corruption et crise économique.
Et le gouvernement brésilien a en effet lancé mercredi un paquet de mesures anti-corruption. Une semaine d'actualité, merci de votre fidélité, à podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Avant de vous retrouver, Delphine Minoui, il nous faut prendre la direction de la Tunisie maintenant. Après l'attentat de mercredi au musée du Bardo dans la capitale, Tunis, plus de 20 morts pour la plupart des touristes, des Français notamment. Un attentat revendiqué jeudi par l'organisation de l'État islamique face au terrorisme. Les Tunisiens font bloc. Correspondance de Camille Lafrance.
Ils étaient plusieurs dizaines à crier « Non au terrorisme, vive la liberté » devant le musée du Bardo, quelques heures après sa prise d'assaut. Parmi ces manifestants, Abdallah.
La Tunisie ne cédera jamais. C'est un pays de paix, de tolérance. On en a marre maintenant. On va bouger. Je vous assure que les terroristes ne réussiront jamais dans ce pays-là. Nous demandons aux citoyens, partout dans le monde, qu'ils soient solidaires, qu'ils viennent en Tunisie.
Beda, elle, adresse directement son message à l'Assemblée et aux autorités du pays.
C'est un acte terroriste vraiment incroyable. On est là, c'est-à-dire, pour pousser les députés à appliquer la loi antiterroriste. Cette nouvelle loi, pour nous, c'est très important. Parce que si cette loi ne soit pas appliquée, ça va durer et il y aura de gros problèmes. Et il faut être sévère, absolument. On est d'accord, il faut être sévère. Il y a combien de morts, combien de blessés? Là, c'est suffisant, ça suffit, basta. Ça suffit. Je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Je suis là.
Le président Béjika Edessepsi s'est engagé à combattre le terrorisme sans pitié. Il assure que des mesures ont été prises pour que de telles choses n'arrivent plus.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Elphine Minoui, auteur de « Je vous écris » de Téhéran, publié au Seuil. On va reparler de ce livre et de votre travail en Iran dans un instant, Delphine. Mais il faut nous arrêter évidemment en Tunisie, un pays que vous connaissez. D'ailleurs.
Oui, j'y étais pendant la révolution, le début du printemps arabe, parce qu'il faut rappeler que tout a commencé quand même en Tunisie en 2011. Et quand on voit ce qui s'est passé, Avec cet attentat, on voit que les djihadistes ont vraiment ciblé, un triple symbole. D'abord la Tunisie, puisque c'est là que tout a commencé. Ensuite, ça a été suivi par la Libye, l'Égypte, la Syrie. On voit le chaos qui se déroule dans ces autres pays. La Tunisie était restée le dernier message d'espoir. C'était devenu le seul pays, voilà, qui est toujours et qui avait réussi sa transition démocratique. L'autre symbole qui a été touché, je pense, c'est que c'est un musée. On sait aujourd'hui que l'État islamique s'en prend aux vestiges historiques dans d'autres pays, y compris la Syrie et l'Irak. Et le troisième symbole, c'est le tourisme. Et là, c'est un sacré coup dur pour l'économie de la Tunisie, parce que on sait à quel point les Tunisiens compte sur le tourisme pour développer leur économie et relancer leur économie.
Alors que ce jour-là, le jour de l'attentat, il y avait un vote d'une loi sur le terrorisme en plus.
C'est toute l'ironie tragique de cette situation, c'est que la porte à côté, au sein du Parlement, les députés s'étaient réunis pour discuter de questions sécuritaires et la question c'était justement comment renforcer notre sécurité dans un contexte très volatile. Il faut rappeler que la Tunisie partage une longue frontière avec la Libye, plongée dans un chaos, avec des jeunes Tunisiens qui sont partis combattre aux côtés de l'État islamique et de certains groupes djihadistes en Libye et qui ont été tentés par le retour. Les jeunes qui ont été arrêtés sont des personnes qui revenaient justement de Libye.
Alors, c'est un jour important en Iran aujourd'hui. C'est samedi 21 mars, Delphine minuit, c'est le nouvel an.
Le 21 mars, en effet, belle coïncidence, correspond au premier jour du printemps d'abord, mais également au Nowruz, le nouvel an iranien, qui est en fait, c'est une vieille tradition en Iran qui date de la période pré-islamique, puisque le Nowruz est calqué sur le calendrier solaire. Et donc, Nowruz veut dire vraiment jour du renouveau. Les gens partent à la campagne. L'idée, c'est aussi de disposer sur une table des objets, sept objets qui commencent par la lettre S, qui sont toutes plus ou moins symboliques de cette renaissance, de ce renouveau.
Alors, on souhaite une bonne année à tous les Iraniens qui nous écoutent. Et dans votre livre, d'ailleurs, on apprend que, je crois, votre grand-mère, vous le dites dans votre livre, écoutez RFI à une époque.
Ma grand-mère est tout à fait écoutée RFI en persan, en onde moyenne, puisque pour elle, c'était une façon d'écouter autre chose, d'autres voix que la voix officielle, diffusée en permanence par la télévision et la radio d'État.
Alors, ce qui frappe en lisant votre livre, Delphine Minuit, sur vos 10 années passées en Iran, c'est la complexité de cette société iranienne. Vu de loin, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'une dictature. Ce n'est pas une dictature, d'une théocratie sans doute, mais à l'intérieur de laquelle il y a des espaces relatifs de liberté.
Le système politique iranien, tel qu'il a été mis en place en 79 par l'ayatollah Khomeini, est un système très singulier, très particulier.
Double commande.
Puisqu'en effet, d'un côté, vous avez le grand leader suprême, en l'occurrence aujourd'hui, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a succédé à Khomeini, qui est désigné à vie. Et puis, en dessous de lui, il y a un président et un parlement qui sont élus au suffrage universel, même s'ils sont présélectionnés par une sorte d'instance de contrôle qui s'appelle le Conseil des gardiens.
Et en lisant votre livre, Delphine, on s'aperçoit que ces élections sont très vivantes. Il y a presque un vrai débat.
Oui, c'est des élections à l'américaine, je dirais, avec des campagnes, avec des spots publicitaires à la télévision, des candidats qui font la tournée des villages, qui se prononcent dans des grands stades de foot qui sont transformés en grands rassemblements, les jeunes qui crient les slogans réclamant plus de changement. C'est très très vivant, la campagne électorale en Iran.
Les jeunes, très nombreux dans la société iranienne.
Très nombreux, on dit qu'environ 70% de la population a moins de 30 ans. Donc c'est une jeunesse finalement qui n'a connu que ce système, qui au fil des années s'en est accommodée.
Il faut rappeler que la révolution iranienne, c'est 1979.
Février 79, la révolution iranienne. Et donc tous ces jeunes, ayant appris à grandir dans ce système, ont très très vite saisi les clés pour se permettre de slalomer entre les interdits, ce qui fait que malgré les restrictions au quotidien, il y a encore, les gens se créent des bulles, il y a des débats dans les universités, il y a des soirées clandestines au nord de Téhéran, il y a des jeunes qui montent des pièces de théâtre de la ville, donc ça bouge beaucoup.
Suite d'une semaine d'actualité, Delphine Minuit, là nous allons partir pour Israël, pays important pour l'Iran, après les élections législatives de mardi et la victoire presque surprise, en tout cas une victoire nette, la réélection de Benjamin Netanyahou qui avec son parti le Likoud a remporté ce scrutin, d'où la déception de la gauche israélienne qui y croyait. Reportage mercredi de notre correspondante à Jérusalem, Muriel Paradon.
Les électeurs de gauche ont la gueule de bois. Ils se sont couchés hier soir avec l'espoir d'un changement de majorité. Mais ce matin, après dépouillement des votes, les résultats des élections avaient changé. La droite de Benjamin Netanyahou arrive en tête. Elia Hénin, 28 ans, est serveur à Jérusalem.
J'étais très déçu. On ne savait pas que c'était une mauvaise surprise. Et je suis un peu pessimiste et je trouve aussi que dans pas longtemps on va rentrer dans d'autres guerres et comme d'habitude en Israël.
Pas de paix possible avec les Palestiniens si la droite reste au pouvoir, selon la gauche. Une gauche qui avait aussi fait campagne sur les dossiers sociaux. Marco Serrabia, militant travailliste depuis 30 ans, espère que Netanyahou fera enfin quelque chose pour les plus pauvres et si ce n'est lui, ses éventuels partenaires centristes dans la future coalition.
J'espère que notre message social est passé et que des partis centristes y feront passer au moins quelques petites réformes pour améliorer le sort des pauvres gens, pour réduire un peu les inégalités et les injustices.
Yitzhak Herzog, le leader du parti travailliste, a admis sa défaite, mais il a promis de continuer son combat pour la paix et contre les injustices sociales.
Suite d'une semaine d'actualité, alors Delphine, minuit, qui dit Israël, dit aussi l'Iran, dit aussi les négociations sur le nucléaire. C'est une réélection qui a presque déplu à ce qu'on appelle la communauté internationale.
Oui, parce que d'abord, comme on l'a entendu dans ce reportage, c'est une claque pour la gauche israélienne, mais c'est également un mauvais signal pour la géopolitique et cette région suffisamment tendue qu'est le Proche-Orient. Netanyahou qui...
Il faut rappeler que Netanyahou, il y a quelques jours encore, disait qu'il n'y aurait pas d'État palestinien.
Exactement. Donc ça inquiète notamment l'Amérique de Barack Obama.
Qui a dit hier qu'elle serait peut-être obligée de redéfinir sa politique au Moyen-Orient.
Tout à fait. Dans le contexte actuel, en parallèle, tend la main à l'Iran. Il ne l'a jamais aussi bien tendu. L'Iran qu'on connaît comme étant le grand ennemi d'Israël dans la région.
Alors vous écrivez à votre grand-père dans ce livre, Delphine, le 14 août 2002, ton pays se retrouva à la une de tous les journaux. Il faut expliquer pourquoi.
C'est
la révélation.
C'est au moment où, pour la première fois, un groupe d'opposants à l'étranger révèle que l'Iran développe un arsenal nucléaire clandestin. Et à ce moment-là, l'Iran, dont on parlait plus au niveau politique, réapparaît sur la scène médiatique, mais on n'a qu'un mot à la bouche, c'est le nucléaire, et le risque de voir Téhéran obtenir la bombe atomique.
Alors, nous sommes en pleine négociation sur le nucléaire depuis 2013.
Ça nous rappelle
2013,
qu'en effet, ça dure depuis maintenant plus de 10 ans.
Donc, vous avez l'air d'être relativement optimiste.
J'ai l'impression qu'après une décade de négociations, d'aller-retour difficiles, on n'a jamais été aussi proche d'un compromis, d'un accord, tout simplement parce qu'on le sent à la fois du côté iranien mais du côté américain. Il y a volonté commune de faire certaines concessions. Les Iraniens, on l'a vu avec l'élection récente en 2013 de Hassan Rouhani, tendent à nouveau la main vers le monde. Ils ont tellement souffert de ces dernières années de sanctions internationales. L'économie iranienne souffre au quotidien. Et je pense que le leader suprême, même si c'est un idéologue, c'est quelqu'un quand même de pragmatique. Donc il considère aujourd'hui qu'il faut savoir lâcher du lest, accepter de réduire la course au nucléaire, de ralentir le programme. Et de l'autre côté, on a Barack Obama qui est animé par cette volonté de désengagement de la région du Proche-Orient et qui voudrait, à la fin de son mandat, aboutir enfin à une sorte de paix avec l'Iran.
En tout cas, selon l'AIEA, l'agence de l'ONU chargée du désarmement nucléaire, l'Iran respecte l'accord intérimaire signé en 2013.
Pour l'instant, en effet, l'Iran donne des signes qui sont plutôt encourageants. Et l'idée à terme, si un accord est obtenu, ce serait à la fin du mois de mars. Après, ensuite, il y aura des discussions techniques qui, je pense, traîneront au moins jusqu'à l'été. L'idée, grosso modo, pour résumer, c'est que l'Iran réduise son arsenal nucléaire, son développement nucléaire, et en retour, la communauté internationale accepterait d'alléger les sanctions.
Alors, vous saviez qu'hier, je change totalement de sujet, Delphine Minoui, c'était la journée internationale du bonheur.
Je l'apprends aujourd'hui à votre micro, c'est très intéressant.
C'est l'ONU qui a
enfin
décidé
une bonne
ça
nouvelle.
À l'initiative du Bhoutan qui a inventé la notion de bonheur international brut, en quelque sorte, une nouvelle façon de voir l'actualité. Ça vous inspire un commentaire, la journée internationale du bonheur, on va terminer cette première partie avec ça.
Moi ça me rappelle cette chanson Happy qui a fait le tour de la planète, qui d'ailleurs à un moment donné a atterri en Iran puisqu'elle a été chantée par des Iraniens sur un toit de Téhéran. Ils se sont filmés, ils ont fait une vidéo YouTube, quelques semaines plus tard ils ont été arrêtés. Et encore une fois, ça c'est encore un des signes de volonté d'ouverture de la part du président pragmatique, modéré Hassan Rouhani, c'est qu'il a pris parti du côté de ces jeunes, il a fait un tweet à l'issue de leur arrestation pour revendiquer le droit au bonheur. Donc on est toujours dans la même thématique et quelques jours plus tard, ils ont finalement été libérés.
Alors soyons heureux. Delphine, minuit, nous allons faire une pause, écouter quelques informations de ces dernières heures et on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction. Nous sommes cette semaine en compagnie de Delphine Minuit, journaliste au Figaro, correspondante au Caire. Elle vient d'écrire un livre que je vous recommande vraiment car il est terriblement humain et journalistique à la fois. Les deux peuvent aller de pair parfois. Livre publié au Seuil et qui s'intitule « Je vous écris de Téhéran ». Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique, bien sûr. Rendez-vous également avec vos messages. Mais tout de suite, la France avec la présentation d'une loi destinée à donner plus de moyens aux services de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Guillaume Deltaï.
Actuellement, aucune loi ne réglemente l'activité de l'ensemble des services de renseignement français. Chacun s'est doté de ses propres règles, parfois à la limite de la légalité. C'est donc pour remédier à ce vide juridique concernant tant les forces de l'ordre que les personnes surveillées que le gouvernement s'est attelé, avant même les attentats du mois de janvier, à la rédaction de cette loi. D'un côté, le texte permet aux services de surveiller des terroristes potentiels sans l'aval d'un juge, mais avec une simple autorisation administrative. Les agents publics pourront ainsi placer des micros dans les appartements ou les voitures des suspects, des balises pour suivre les déplacements des véhicules et effectuer des interceptions de sécurité sur les échanges électroniques et conversations téléphoniques. Ils pourront notamment capter des données directement chez les opérateurs. Mais cette loi définit aussi les conditions requises pour qu'une telle surveillance soit engagée et elle crée une nouvelle autorité administrative chargée de contrôler ces activités. Des garanties qui ne rassurent guère les défenseurs des libertés individuelles, parmi lesquelles l'officielle Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle s'inquiète des menaces que le texte fait peser sur la vie privée et les données personnelles.
Suite d'une semaine d'actualité en France, le procès de deux policiers accusés de non-assistance à personne en danger après la mort accidentelle de deux adolescents à Clichy-sous-Bois dans la banlieue parisienne en 2005 qui avait embrasé, on s'en souvient, les banlieues françaises, a débuté lundi. Il s'est achevé hier sur deux positions apparemment inconciliables. Franck Alexandre hier.
Deux lectures du drame de Clichy-sous-Bois s'opposent encore et toujours. Le clivage est profond. Le parquet, comme il l'a toujours fait, maintient sa position. Pour que soit constitué le délit de non-assistance à personne en danger, il faut être conscient de la réalité du péril. Le danger doit être constaté et non pas supposé. Or, comme l'indique Daniel Merchat, l'avocat des policiers, pour ses clients, la présence des adolescents sur le site EDF n'était qu'une hypothèse.
Cela fait 9 ans qu'ils disent « si nous avions été certains qu'ils étaient en danger, nous aurions réagi différemment. » En un mot, commençant, je trouve que depuis la première audition de Gaïmin, le lendemain des faits, nous n'avons pas avancé d'un millimètre.
Au contraire, le péril était imminent, rétorquent les parties civiles, et les policiers se sont volontairement abstenus d'intervenir. Jean-Pierre Mignard.
Il me semble quand même que c'est un réquisitoire qui vise exagérément à mettre hors de cause les fonctionnaires et donc, dans tous les cas, pas de condamnation. J'ai eu même quelquefois le sentiment que Madame le procureur n'était pas dans la salle lorsque nous avons plaidé. Donc c'est un dialogue de sourds qui dure depuis des années.
Depuis 10 ans, un sentiment d'injustice prospère à Clichy-sous-Bois et ce procès, visiblement, n'aura pas permis d'apaiser la situation.
Et bien sûr, on vous parle de l'issue de ce procès dans nos journaux ce matin. Terminons cette séquence française avec l'ouverture hier du traditionnel Salon du Livre de Paris, près d'ici d'ailleurs, à la porte de Versailles. Catherine Fréchon-Toussaint.
Les Français lisent de moins en moins, d'après l'Institut Ipsos qui vient de publier un rapport plutôt inquiétant où une personne interrogée sur 3 déclare avoir ouvert moins de livres que l'an passé, un pourcentage qui atteint presque 50% pour les 15-24 ans. Une baisse peut-être enrayée par le Salon du Livre de Paris qui, une fois de plus, multiplie les raisons d'aimer la lecture. Que ce soit la découverte de la littérature brésilienne, représentée ici par une 50aine d'écrivains, ou de la littérature polonaise de Cracovie et de Wrocław, de soif, voir la perspective de rencontrer Amélie Nothomb, David Fuenquinos ou le prix Goncourt Lydie Salvert. Tous les prétextes sont bons pour venir faire un tour dans cette immense hall où la BD côtoie les livres de cuisine, les romans ou encore les polars. D'ailleurs, cette année, le genre est à l'honneur avec une grande exposition pour les 70 ans de la série noire et une enquête géante dans les allées du salon. Autre temps fort, plusieurs débats sur la liberté d'expression, une question qui se pose pour les écrivains, mais aussi désormais pour le grand public.
Suite d'une semaine d'actualité, nous avons dans ce studio Delphine Minuit qui a écrit un livre qui s'intitule « Je vous écris de Téhéran », livre qui était dédicacé hier d'ailleurs, hein, c'est ce que vous...
Au Salon du Livre.
Rendez-vous important pour ceux qui aiment le livre. Est-ce que, je vous pose la question, mais j'ai déjà la réponse, il faut l'expliquer à nos auditeurs puisque ça traverse le livre, est-ce qu'il est difficile, il vous a été difficile de travailler comme journaliste en Iran pendant ces 10 ans? Il y a des périodes très difficiles, des convocations par la police par exemple, assez musclées presque.
Être journaliste en Iran, c'est très complexe. Journaliste travaillant pour un média français. Ce qui est compliqué en Iran, c'est si on veut comparer l'Iran avec d'autres pays, c'est pas comme la Syrie sous Bachar ou avant tous les événements actuels. Il y avait une surveillance renforcée, c'est-à-dire que dès le départ, dès qu'on mettait le pied à Damas, c'était presque le cliché du renseignement. Je me souviens quand j'allais à Damas, il y avait toujours, j'ouvrais ma porte de ma chambre d'hôtel et il y avait un type, une sorte de cerbère en costume vert olive, qui lisait son journal, souvent à l'envers d'ailleurs, mais pour me faire comprendre qu'il était là en train de me surveiller. En Iran, on la sent pas, cette surveillance. Et c'est ça qui est encore plus sournois. C'est-à-dire que c'est par petites touches. Au fil du temps, on réalise que notre téléphone est sur écoute. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à être convoquée régulièrement au service de renseignement, puisque mon interrogateur, que j'appelle Monsieur Finger,
qui traverse
pour l'anecdote,
le livre, d'ailleurs, que vous allez rencontrer à plusieurs reprises.
Exactement, que je commence presque à apprivoiser. Si je peux me permettre, lui, je me rends compte que il est au fait de toutes mes discussions, y compris parfois de mes tracas avec ma grand-mère iranienne, de mes chamailleries, c'est ce que j'explique dans le livre. On est en permanence face à des obstacles invisibles, mais qui surgissent tout d'un coup sur notre route, parce que ça peut être au sortir d'une interview, des miliciens ou des types de la sécurité qui nous arrêtent dans notre taxi, qui nous retiennent pendant 4 heures,
qui vous pointent votre ordinateur.
Et voilà, en l'occurrence, ils me piquent mon matériel. Ils disparaissent et quand je vais me plaindre au ministère de l'information qui supervise les accréditations presse, on me fait comprendre que non, vous auriez dû leur résister, c'était certainement des voleurs. Alors on est toujours dans cette culture du doute, on ne sait plus qui est notre ami, qui est notre ennemi, qui nous surveille et on en vient parfois, je le reconnais, à se méfier même de ses propres amis et de ses propres confrères. Puisqu'à un moment donné, quelques années plus tard, je réalise que moi aussi, les services de renseignement ont essayé de me manipuler en me proposant de collaborer avec eux. Et quand je refuse, ils me disent que d'autres avant moi ont accepté cette contrainte et ce compromis. Donc ça veut dire que tout de suite, je me suis rendu compte qu'il y en a peut-être d'autres qui faisaient comme moi, qui renseignaient les services sur ce que je faisais, sur mes reportages. Et donc on intègre au fil des années cette culture du doute, de la méfiance et parfois aussi, il faut le reconnaître, de la paranoïa.
Paranoïa, schizophrénie en Iran, c'est deux symptômes importants apparemment. Delphine Minuit, à la sortie de l'un de ces interrogatoires musclés avec la police, vous avez deux besoins, parler à votre grand-père, c'est ce que vous expliquez dans le livre, et lire des poèmes. Un gamin vous tend un poème de Hafez. Il faut rappeler qui était Hafez.
Hafez, c'est un vrai symbole en Iran. C'est ce grand poète persan du XIVe siècle qui a écrit un recueil de quatrains qui s'appelle le Divan de Hafez.
Et qui vous accompagne.
Et qui m'accompagne tout du long. Pourquoi ? Parce que justement, on est encore une fois dans les symboles. Quand mon grand-père décède en 97, c'est lui qui me donne mes premiers cours de persan puisque je n'avais pas appris la langue. Et il m'écrit en calligraphie persane ce poème de Hafez qui tourne autour de la symbolique de la vague et qui, grosso modo, si on lit entre les lignes, m'incite à aller au-delà de cette vague, au-delà du sable rassurant du rivage et à plonger. C'est comme ça que je suis partie en Iran. Et Hafez, c'est un peu comme si on regardait son avenir dans une boule de cristal et c'est comme ça que le conçoivent les Iraniens de toutes les sphères de la société. On essaye de deviner toujours entre les lignes ce qu'il va prédire. On ouvre en fait au hasard des pages de son
recueil. Et en fonction de ce qui est écrit, on va suivre un petit peu ce cheminement. Et Hafez, il est partout. Il est dans la classe UPI, il traverse les élites, mais également quand on est dans la rue de Téhéran et qu'on croise un petit mendiant, eh bien, il va nous déclamer des poèmes de Hafez avec un petit canari sur l'épaule. Et c'est ce côté qui m'a toujours marqué en Iran, ce côté poétique qui est omniprésent derrière cette rigidité et ces restrictions que le système impose aux Iraniens de tous les jours.
En deux mots, et je m'en excuse, Delphine Munoui, il faut vraiment rappeler qui était votre grand-père, à qui vous écrivez dans ce livre « Je vous écris de Téhéran ». Il a été diplomate, je crois.
Mon grand-père était diplomate. Il a été nommé à la fin des années 50 représentant de l'Iran à l'UNESCO. Moi, j'avais ses souvenirs d'enfance, mais sans comprendre vraiment pourquoi il avait été choisi à Paris. Et c'est des années plus tard, quand j'ai été confrontée au service de renseignement iranien, que, à travers des discussions avec mon père, ça m'a permis de sonder le passé de mon grand-père et de réaliser que, à l'époque, quand mon grand-père a été envoyé à Paris, en fait, c'était une façon de l'écarter du pouvoir du Shah, du système de l'époque. C'était une sorte de placard doré, ouais. Parce qu'il ne faisait pas partie de ceux qui défendaient le système de la monarchie de l'époque. Et quand il est rentré à Téhéran en 61, à ce moment-là, on lui a proposé le poste de ministre de l'éducation nationale, mais la grande condition, c'était qu'il collabore avec la police secrète qui était la SAVAK.
La tristement célèbre SAVAK, ouais.
Et là, il a refusé. Et c'est à ce moment-là que voilà, sa carrière a été brisée et qu'il s'est réfugié dans l'écriture, dans les poèmes. Et finalement, c'est là que j'ai compris que quelque part, quels que soient les systèmes politiques, il y a quand même une sorte d'histoire qui se répète. Mon grand-père, en son temps, a été confronté au service de renseignement. Et moi, d'une autre façon, j'ai dû aussi faire face à la police secrète du régime des Mollahs.
Alors Delphine, je vous propose de retrouver l'Iran dans quelques minutes.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Nous allons en effet partir pour l'Afrique dans quelques minutes, quelques secondes, mais j'ai devant moi beaucoup de messages. Je salue quelques auditeurs, comme chaque samedi. Bonjour à Mokhtar, à Richard Toll au Sénégal, à propos de l'arrestation à Kinshasa de militants pro-démocratiques sénégalais et burkinabés, dont nous allons parler dans un instant. Il écrit « Je me demande comment peut-on arrêter Manu Militari, des activistes de la société civile qui sont dans la légalité ». Bonjour à Elamine Diem, à propos de l'attentat de Tunis, dont nous parlions tout à l'heure avec vous. Delphine, il écrit « N'est-il pas un règlement de compte dans la mesure où le printemps arabe est né en Tunisie, le seul pays qui a réussi dans son combat puisqu'il y a la stabilité dans le pays ?» C'est ce que vous soulignez tout à l'heure, Delphine Minoui. Bonjour également à Kobo Maurice, un fidèle des fidèles. Ce carnage en plein Tunis est réellement une situation gravissime qui doit interpeller tous les démocrates du monde. Bonjour à Taïrou Diakité Amopti au Mali, fidèle auditeur de RFI et de l'émission en particulier. Bonjour Alpha Oumar Diallo, j'invite, dit-il, les autorités guinéennes à revoir la politique électorale pour éviter les événements de 2007. Enfin, un salut à Hassan qui est journaliste à la radio publique du Maroc. Suite d'une semaine d'actualité, ça y est, nous partons pour l'Afrique. Delphine Minoui, avec d'abord une confirmation, la prise de la ville nigériane de Damasak par les armées tchadiennes et nigériennes. Une victoire dans la guerre contre les djihadistes de Boko Haram. Reportage de notre correspondant au Tchad, Majias Ranako.
En franchissant la rivière Komaldougou-Yobe le 8 mars dernier, les forces tchadiennes et nigériennes ne s'attendaient pas à une résistance aussi farouche des islamistes à Doti. Le colonel Ahmad Youssouf de l'armée tchadienne raconte les batailles qu'il a fallu livrer pour atteindre Damasak, pourtant situé à seulement 15 minutes à vol d'oiseau.
Nous avons fait le premier combat à Douchi, le deuxième combat à Gadori, à 7 km de Douchi, avant d'arriver la 14 ici à Damasak. Mais à l'entrée est de Damasak, nous avons eu une petite résistance, mais ils ont laissé beaucoup de véhicules, beaucoup de motos calcinées dans la brousse là où on a fait les combats.
Qu'est-ce qui explique cette lente progression ? Réponse du colonel Toumba Mohamed de l'armée nigérienne.
Bon, les difficultés, c'était dû à un environnement boisé. Parce que quand quelqu'un est dans un environnement boisé, il est difficilement décelable. Donc il fallait vraiment aller avec munitions, pas à pas, déceler les poches de résistance et les réduire. Et passer avec sérénité sur les objectifs futurs.
Les deux armées qui tiennent la ville ont commencé à inviter les habitants qui sont enfuis à revenir chez eux. Mais pour les forces coalisées, il faut poursuivre l'ennemi dans ses retranchements. Colonel Toumba.
Prochain objectif après Damassa, qu'on va vous le dire sans embâche, ce serait Malam Fatoulou.
À propos du Tchad, notez le mouvement de protestation dans les écoles et les universités. Beaucoup d'étudiants attendent que la vérité soit établie sur la répression des manifestations du 9 mars dernier, qui ont fait, je vous rappelle, des victimes. A souligné aussi des tensions sociales au Togo. Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, la liberté d'expression a des limites, semble-t-il, en République démocratique du Congo. Confirmation en a été donnée dimanche avec l'arrestation d'animateurs d'associations dites citoyennes, ONG sénégalaises et burkinabèses, qui, après avoir été retenus dans le pays, ont été expulsés. Kinshasa, correspondant jeudi de Léa Lisa Westerhoff.
C'est la meilleure solution que nous avons trouvée, a admis lui-même le porte-parole du gouvernement Lambert Mende au cours d'une conférence de presse hier. Car expulser Fadel Barrow et les trois autres militants du Sénégal et du Burkina Faso permet finalement de sortir la tête haute d'une crise qui devenait compliquée à gérer. Ces dernières 24 heures, en effet, les réactions de la communauté internationale se sont multipliées. Dakar, Ouagadougou, mais aussi Bruxelles, Washington et Paris, sans compter les organisations de défense des droits de l'homme. À chaque fois, l'incompréhension et l'inquiétude de voir une trentaine de personnes arrêtées pour avoir parlé d'action citoyenne et d'alternance politique au Congo. Pression diplomatique donc, avec notamment un coup de fil du président sénégalais à son homologue congolais, mais pas seulement. Selon plusieurs sources, après de 72 heures d'interrogatoire, il devenait difficile de prolonger la détention de ces militants d'un point de vue juridique. Reste que 17 Congolais au moins viennent de passer une quatrième nuit en détention, parmi eux des militants mais aussi des musiciens, des personnes qui n'ont toujours pas été présentées au parquet et n'ont pas eu accès à un avocat, comme le prévoit la loi. Après l'expulsion des militants étrangers, la diplomatie va-t-elle également permettre de libérer les Congolais? Lambert Mende a annoncé que la décision de les poursuivre en justice ou non tomberait dans les 48 heures.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Delphine Munoui qui écoute attentivement l'actualité africaine car ça l'intéresse. Nous allons, Delphine, partir en Centrafrique maintenant à Bangui où la délinquance règne alimentée par les trafics d'armes. Face à cette situation, les policiers de l'ONU et les forces centrafricaines aussi multiplient les patrouilles. Reportage avec l'une d'entre elles signée Pierre Pinto et Bertrand Eclair.
Il faut toujours sortir avec vos documents. Voilà.
Contrôle des véhicules dans le 4e arrondissement. Toute voiture ou moto dont le conducteur n'a pas les papiers est supposée volée. Elle sera saisie jusqu'à présentation des documents. Le lieutenant-colonel Valentin Kikobé Pataki du centre opérationnel commun de Bangui supervise ce checkpoint à l'entrée du quartier de Boyrab.
Le quartier Boyrab, c'est ce quartier-là qui regorge tous les bandits, tous les criminels, tous les ceux qui font, qui braquent les véhicules dans la ville. Et ces véhicules braqués prennent la direction de Boyrab. C'est pour cela qu'on a érigé ce service-là pour essayer de bloquer les gens qui veulent, après leur forfait, s'exfiltrer vers Boyrab.
Ce genre d'opération a lieu presque chaque jour, surtout dans les quartiers du nord de Bangui. L'objectif pour les policiers et gendarmes internationaux et centrafricains, c'est aussi et surtout de se montrer pour dissuader les braqueurs de motos ou de voitures et rassurer la population. Jean-Michel habite le quartier.
Il faudrait absolument qu'il y ait des contrôles dans tous les quartiers. Il ne faut pas que ça soit exclusivement à Boyrab. Même dans les arrondissements où il n'y a pas de problème, il faudrait qu'il y ait des contrôles parce que les gens quittent de quartier à quartier pour faire des exactions. C'est les braquages, c'est les violences à main armée, ainsi de suite, pour toujours se prendre des petites choses.
Après quelques heures de contrôle, ce matin-là, les gendarmes embarqueront une dizaine de motos, mais personne ne repartira menottes au poignet.
Suite et fin d'une semaine d'actualité en Afrique et nous allons repartir en Tunisie, revenir sur l'attentat de mercredi au musée Bardot à Tunis pour reconstituer les événements. Delphine Minuit, Florence Maurice.
Tout commence à la mi-journée. Deux hommes ouvrent le feu sur des touristes qui descendent de leur bus devant le musée du Bardo à Tunis. Selon le Premier ministre, les assaillants sont en habits militaires et armés de Kalachnikov. Un guide du musée présent lors de cette fusillade décrit un jeune homme de 25 ans, sans barbe et manifestement peu habitué à manipuler de telles armes. Selon plusieurs sources, dans un premier temps, les assaillants auraient en fait tenté d'entrer dans l'Assemblée nationale mitoyenne du musée, mais sans y arriver, résultat, ils se retranchent à l'intérieur du musée où se trouvent plus d'une centaine de visiteurs. Rapidement, le quartier est bouclé, les forces spéciales déployées, l'Assemblée nationale évacuée. Puis vers 16h, l'assaut est donné sous les applaudissements de la population. Des centaines de Tunisiens réunis spontanément pour soutenir les forces de l'ordre. Au cours de l'assaut, deux assaillants sont tués, les blessés évacués et les derniers otages sont libérés. Peu après, le premier ministre tunisien prend la parole à la télévision. Il dénonce une opération lâche et appelle les Tunisiens à rester unis face au fléau du terrorisme qui menace, selon lui, la stabilité du pays.
Suite d'une semaine d'actualité, nous allons repartir pour l'Iran, Delphine Munuit. Je voudrais que vous nous parliez de ce couple de Basidji, de gardiens de la révolution. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, ceux
les
qui sont
islamistes.
Les miliciens islamistes, qui sont, je trouve, formidables. Ils font partie des Iraniens que l'on croise dans votre livre, parce qu'ils sont peut-être représentatifs de la société iranienne aujourd'hui, non ?
Oui, je pense que ce couple, il est emblématique d'abord des contradictions de la République islamique. Et puis aussi de cet Iran qui change malgré tout derrière cette image figée qu'on a de l'extérieur.
C'est un couple que vous rencontrez un jour.
D'ailleurs dans des circonstances assez étonnantes, puisque quand je rencontre le mari d'abord, Mahmoud, je suis en tournage avec une équipe de télé belge. Nous sommes dans les montagnes qui entourent Téhéran et nous filmons des jeunes comédiens qui sautent de roche en roche et qui déclament des tirades.
Et lui
tout d'un
vient
coup,
vous dire
Mahmoud arrive et il nous dit qu'on n'est pas bien voilé. Mal voilés, ils nous demandent de redresser nos foulards, en tout cas en ce qui concerne les femmes, et ça se termine avec voilà une altercation assez violente au niveau verbal. Ils nous menacent de nous arrêter, et puis finalement on arrive plus ou moins à négocier, et on s'en sort de justesse. Et puis par le plus grand des hasards, quelques semaines plus tard, c'est l'anniversaire c'est la commémoration de la guerre Iran-Irak. Il faut savoir que c'est une guerre qui a duré très longtemps, entre 80 et 88.
Une guerre de tranchées,
et je suis là en train de regarder ces photos de la guerre Iran-Irak, et tout d'un coup je reconnais une voix derrière moi qui m'interpelle. Je me retourne et c'est Mahmoud, le milicien. Et il y a eu un déclic, parce que tout d'un coup lui-même était étonné de me voir dans un endroit comme ça, parce
qu'il m'avait
fiché comme une occidentale, une journaliste occidentale, et il me propose de me faire la visite des lieux, et on sympathise, et de fil en aiguille il me propose de rencontrer sa fiancée Fatemé, qui à l'époque était une jeune femme en tchador.
Au
fil des années, c'est impressionnant. En fait, elle a changé comme a changé la société iranienne. Elle a repris ses études qu'elle avait suspendues quand elle a épousé son mari. Elle a commencé à se connecter sur l'actualité internationale, parce qu'elle s'est procuré une fameuse parabole interdite. Donc elle a commencé à regarder CNN, à se rendre compte que finalement l'Iran, c'est pas le pays le plus rose de la planète. Elle qui défendait corps et âme pendant des années la République islamique. Et de fil en aiguille, en 2009, elle a voté contre Mahmoud Ahmadinejad, qui était le président ultra-conservateur qui s'est présenté à sa réélection, tandis que son mari, lui, votait dans le sens inverse. Il a soutenu ce président. Je ne révélerai pas la fin de leur histoire. Non. Elle est inscrite dans le livre, mais on se rend compte à la fin que ces deux jeunes ont suivi des voies complètement opposées, alors qu'ils font partie de ce corps des miliciens islamistes qu'on a identifié ici en France comme étant ces jeunes à la solde du régime qui vont se contenter d'aller tabasser les protestataires et toutes les voix qui réclament le changement.
Alors, la question est difficile, Delphine, j'en ai conscience, mais il y a quelques années de grosses manifestations, de longues années en Iran. Est-ce que le risque pour le régime en tout cas, d'un soulèvement est possible ? On parlait de la jeunesse, on sent dans votre livre notamment qu'il y a une telle vie sous-jacente qu'on se dit, mais un jour, tout ça va craquer.
Oui, en fait, ça a craqué en 2009. Ouais. Ça a été reconstitué, ça a été recollé. Je cite dans le livre cette amie Niloufar qui me dit que voilà, c'est que c'est comme un verre brisé dont on a reconstitué les morceaux, mais ça reste très fragile. Ça reste très fragile. Donc, il y a quelque chose qui a craqué, et on n'est pas à l'abri d'un nouveau mouvement de contestation à l'avenir. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, le guide suprême, d'une certaine manière aussi
lâche un tout petit peu du lest, en réalisant qu'il faut mieux s'ouvrir un peu sur la scène internationale, qu'il faut laisser le nouveau président modéré et pragmatique accorder certaines libertés à la société, plutôt qu'assister à un nouveau mouvement populaire contre sa personne. Et puis c'est quelqu'un qui est au courant, qui est au fait de ce qui se passe sur la scène internationale. Il a vu que tous les autocrates de cette région ont été déboulonnés. En même temps, les Iraniens, ayant vécu eux-mêmes leur révolution en 79, en ont tiré certaines conclusions et sont bien conscients que quand on se débarrasse d'un système autocrate, c'est pas du jour au lendemain qu'on obtient la démocratie. Ils voient ce qui se passe en Syrie, ils voient que ces mouvements populaires pacifistes se sont transformés en guerre civile et que maintenant, tristement, il y a une menace, un monstre encore plus inquiétant que Bachar al-Assad, qui est l'État islamique Daesh.
Alors il y a un homme, et on va terminer avec ça, Delphine, qui est très présent aussi dans votre livre, enfin, qui revient souvent, c'est Emadeddin Baghi. Il faut dire, rappeler en deux mots le combat de cet homme qui combat, je crois, la peine de mort, non ?
Oui, à l'époque, c'était quelqu'un qui s'était battu, y compris avec les armes, contre le Shah, qui avait défendu la République islamique. Lui-même était issu d'un milieu très très religieux, mais au fil des années, il fait partie de ce que j'appelle ces anciens Che Guevara de l'islam. Mmh. Il a adopté la réforme, c'est quelqu'un de très philosophique, qui est parti du principe qu'il fallait s'adapter à son temps, à la modernité, écouter les voix des jeunes, des intellectuels et des femmes. Et au fil des années, eh bien, il s'est retrouvé en prison, parce qu'il a osé défier le système, et il était considéré comme un agent d'autant plus perturbateur, parce que lui-même venait de ce sérail religieux qu'il remettait en question. Et à force d'enchaîner les séjours en prison, à un moment donné, il a renoncé à son combat politique, il s'est réfugié plus dans le militantisme social, il s'est engagé dans un combat de longue haleine qui est de se mobiliser contre la peine de mort en Iran.
Merci Delphine Minoui, il faut vraiment lire votre livre qui s'intitule « Je vous écris de Téhéran », il est publié au Seuil et l'on voit ce pays, l'Iran, d'un autre œil.
Merci beaucoup.
C'est moi, merci. Une semaine d'actualité réalisée par Mathias Taylor. Retrouvez cette émission sur le site de la radio, vous pouvez la podcaster, www.rfi.fr. Je vous donne rendez-vous demain pour le magazine Idées, consacré à la philosophie aussi. Delphine, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Nous parlerons de Roland Barthes à l'occasion du centenaire de la naissance du sémiologue, avec Tiphaine Samoyau qui vient d'écrire une biographie déjà de référence de l'auteur de Mythologie. Par exemple, demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.